Bonjour et bienvenue. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire ce samedi le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du samedi, la République au défi du décolonialisme et de la cancel culture. Décolonialisme, comprenez ce mouvement de pensée qui veut combattre ce qui resterait de l'idéologie et des pratiques coloniales dans notre société. Notre invitée aujourd'hui, justement, elle est féministe décoloniale. Cela fait des années maintenant qu'elle cherche à dénoncer la convergence de différentes formes de domination, sexisme, racisme, capitalisme, impérialisme. Elle se dit féministe, mais féministe décoloniale, et donc elle s'oppose à un féminisme universel. Elle qui a partagé les combats du MLF dans les années 70, elle a pu récemment faire tribune commune avec des indigènes de la République. Elle nous dira pourquoi elle défend ses idées au risque de la division dans l'espace public. Françoise Vergès nous rejoindra dans une vingtaine de minutes pour un débat sur ces questions de fond et qui divisent profondément notre société et le champ des idées. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Et pour démarrer, il va être question de climat, non pas de météo, mais vraiment de climat.
Dire que cette loi à elle seule est une loi qui doit porter toutes les ambitions de la France sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument absurde. On a un ensemble de mesures qui sont portées depuis le début de ce quinquennat qui poussent vers cette orientation. Que les écologistes, d'une manière générale, disent « mais il faut toujours porter l'ambition et rehausser l'ambition », bien évidemment.
C'était Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Elle était l'invitée du grand entretien de la matinale mercredi. Elle évoquait donc son projet de loi climat et résilience, puisque tel est l'intitulé exact, qui était présenté en Conseil des ministres cette semaine. Gilles, que vous inspire d'abord l'intitulé climat et résilience? Pourquoi l'association de ces deux mots?
Climat, on voit bien, la question donc se pose plus sur résilience, parce que c'est un des mots qui est dans le débat public autour des questions environnementales, savoir comment on peut rebondir. Barbara Pompili n'a pas tort en disant qu'il y a l'ensemble des mesures et qu'il y a la loi et qu'il faut penser cela globalement. Une des difficultés pour porter un jugement sur le projet de loi qui vient d'être présenté, au-delà du fait que c'est un projet de loi et qu'il va encore être discuté,
oui,
tient à la question de savoir ce jugement se fait par rapport à quoi. La première tentation qu'on peut avoir, c'est de le juger à l'aune des propositions qui ont été formulées par les Français dans la Convention pour le climat.
Les 150 citoyens,
les 150 citoyens et les 149 propositions. Ce qui est en jeu alors, c'est le respect de la parole présidentielle qui avait dit qu'il reprenait sans filtre 146 de ces 149 propositions. À cette aune-là, le compte évidemment n'y est pas, puisque il y a un peu plus de 10% de ces propositions qui sont reprises intégralement, un peu moins de 30% qui sont reprises partiellement, même si Barbara Pompili a raison de le dire, il y a d'autres mesures qui sont prises ailleurs. Mais le Conseil économique et social, dans son avis, a dit c'est souvent limité, souvent différé, souvent conditionné. Bon, à cette aune-là, le compte n'y est pas. En même temps, je pense qu'on ne peut pas se contenter de juger ce projet à l'aune de ses propositions, parce que moi, je considère qu'il est légitime qu'il y ait des évolutions par rapport à ça. Et donc, l'autre tentation qu'on peut avoir, c'est de juger le projet de loi à l'aune des objectifs que la France elle-même s'est assigné lors de la COP21, réitéré depuis, de réduction des gaz à effet de serre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le projet de loi, il y a une étude d'impact. C'est-à-dire que le projet de loi lui-même essaye d'évaluer ce qui a été fait. Et là aussi, on voit en réalité que le compte n'y est pas, puisque, en gros, dans le projet de loi lui-même, c'est 10% du chemin qui est à parcourir. Et si on prend, comme Barbara Pompili nous y invite, et qu'on suit les chiffres du gouvernement qui peuvent être optimistes, c'est les deux tiers du chemin. Ça veut dire que là encore, le compte n'y est pas, et le compte y est d'autant moins que, dans l'intervalle, nous avons rehaussé, au niveau européen, ces objectifs. Bon, donc, de ce point de vue-là, on n'y est pas. Et puis, il y a une dernière manière de regarder, qui est, je le dis d'un mot, qui est de regarder par rapport à la situation existante. Et là, il faut reconnaître objectivement que ce projet de loi touche à beaucoup de champs de la vie quotidienne et qu'il y a un certain nombre d'avancées, même si quand on regarde dans le détail, je ne veux pas être plus long, elles sont souvent limitées.
Natacha Polony.
Je rejoins ce que vient de dire Gilles sur la question du rapport entre cette loi et la Convention climat. Donc, je ne vais pas faire plus long là-dessus. Je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut regarder quand on essaye de juger cette loi. C'est la contradiction qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut appeler la politique des petits pas, c'est-à-dire, en effet, ces quelques avancées qui sont indéniables et qui sont mieux que rien, on va dire, et la façon dont on peut penser réellement à échelle globale une façon d'évoluer vers une transition climatique, vers une transition environnementale, sachant que cette question est évacuée et n'était pas complètement traitée même dans les propositions de la Convention citoyenne. Mais il y a un élément qui me semble essentiel, c'est le fait de savoir si nous réussirons à un moment donné à avoir un débat général, un débat démocratique sur la question du nucléaire, par exemple, qui en fait est toujours laissé de côté parce que c'est éminemment problématique. Or, je pense que si nous voulons réfléchir aux enjeux à venir, soit on règle la question en expliquant que nous devons diminuer drastiquement notre consommation d'énergie. Alors, de fait, il faut réfléchir aux moyens de le faire, mais pouvons-nous le faire uniquement avec des énergies renouvelables ? À un moment donné, il faudra se poser la question parce que la France est en train petit à petit d'abandonner sa filière nucléaire d'une façon qui ne me semble pas la bonne. C'est-à-dire l'abandonner à long terme, à un moment où on aura véritablement travaillé sur des alternatives, ce serait sain. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Deuxième point, penser le climat sans penser l'externalisation massive de notre pollution qui aboutit au fait que nous ne sommes pas trop mal classés dans les mesures de production de gaz à effet de serre me semble problématique. Et c'est l'autre point qui est, je dirais, un point aveugle systématique de ce genre de loi, c'est-à-dire le fait que on ne peut pas penser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre sans penser la question de la consommation, mais également la question de la production.
Oui.
Ce qu'on appelle la division mondiale du travail est un des facteurs majeurs de production de gaz à effet de serre, sauf que ça ne se voit pas chez nous, et un des éléments majeurs de pollution. Donc je pense que là, en l'occurrence, les petits pas ne suffiront jamais face à un enjeu essentiel qui est la question de savoir comment on relocalise une économie qui tienne compte des modes de consommation, qui reconstruisent une façon de consommer.
Et le 9 mars, les députés examineront le projet controversé du gouvernement d'organiser un référendum pour intégrer la protection ou la garantie de la biodiversité dans le premier article de la Constitution. Gilles, vous vouliez encore ajouter un mot avant de passer au prochain sujet.
Oui, juste un mot. Je crois que Natacha Polony demandait est-ce qu'il y aurait un débat général sur la question du nucléaire et de la place du nucléaire dans le mix énergétique. Je pense que l'élection présidentielle est faite pour ça et qu'il devrait y avoir ce débat-là et qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur la réduction des gaz à effet de serre sans avoir une réflexion sur la place du nucléaire.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
J'aurais pu le signer.
Non,
ce livre,
ça va aller.
Si, j'aurais pu le signer.
C'est étonnant,
je vous le dis,
c'est là
vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire.
Non. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve là. Si je crois à vos distinctions entre ce que dit Monsieur Ravier, ce que dit Madame Le Pen, maréchal, ce que dit Monsieur Collard, il y a vraiment une différence forte. Vous êtes prête, si je comprends bien, à même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème.
Vous avez reconnu évidemment les voix de Marine Le Pen et de Gérald Darmanin qui débattaient jeudi soir sur le plateau de France 2 dans l'émission Vous avez la parole. Vous avez la parole, Natacha Polony. Qu'avez-vous pensé de ces échanges et particulièrement de cet échange que nous venons d'entendre?
Je pense que je ressens comme à peu près tout le monde une forme de consternation, non?
Pourquoi de la consternation?
Parce que on a là l'exemple même de la posture politicienne des deux côtés. C'est-à-dire, ce débat n'a servi à chacun des deux intervenants qu'à essayer d'envoyer des messages à leur électorat en se positionnant, quitte à être dans les paradoxes permanents. C'est-à-dire qu'on a une Marine Le Pen qui essaye de se présidentialiser et qui donc surjoue l'aspect extrêmement raisonnable, parfois conciliant, mais qui est dans la contradiction totale. C'est-à-dire un coup, elle reproche à Gérald Darmanin d'en vouloir aux religions et d'attaquer les religions en général pour viser l'islamisme, et dans le reste du débat, elle explique qu'il faut carrément interdire les signes religieux dans l'espace public. Si ça, ce n'est pas s'en prendre aux religions en général, je ne vois pas bien ce que c'est. Donc on est dans l'absurdité la plus totale, on n'a toujours pas compris exactement comment elle comptait régler la question notamment de la déscolarisation de certains enfants qui sont mis dans des écoles coraniques clandestines. Donc elle reproche là aussi ce volet de la loi parce que ça fragilise certaines familles, notamment proches de son électorat, quand ce sont des familles plutôt catholiques, même si c'est pas la majorité de ces familles-là. Mais on ne comprend pas bien les propositions. Et de l'autre, on a un Gérald Darmanin qui visiblement était dans la préparation de l'élection présidentielle d'une façon d'ailleurs qui ressortait systématiquement puisqu'il ne cessait de répéter que c'était la préparation du débat de second tour de la présidentielle, ce que je trouve assez absurde, partir du principe que Marine Le Pen sera au second tour me semble un petit peu cavalier, mais on avait là un numéro de claquette assez consternant et qui a laissé totalement de côté toute la réflexion sur la République, sur l'intégration, sur l'ascenseur social, sur le projet républicain dans sa promesse face à des populations fragilisées. Enfin, tout ça a disparu.
Gilles Finkelstein, vous partagez le diagnostic ?
Oui, moi j'ai pas eu un sentiment seulement de consternation, mais j'ai eu un sentiment de malaise. Je l'ai eu au départ sur la configuration même de ce débat qui nous donnait à voir une partie étroite du spectre politique. Et d'ailleurs, l'audience de cette émission est une illustration de ce que beaucoup de Français ne se sentaient pas représentés dans ce débat. Et j'ai eu un sentiment de malaise à l'arrivée en regardant aussi le contenu des échanges. Je voudrais quand même revenir d'abord sur le contenu. Et le contenu de ce que dit Marine Le Pen, parce que Natacha Polony dit elle a surjoué le raisonnable, il y a malgré tout, sur le fond, une profonde continuité. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Quand vous regardez les propositions, quand vous prenez le temps de regarder les propositions, le retour au droit du sang, l'immigration, zéro, la détention sans cause perpétuelle pour les étrangers qui ne peuvent pas être expulsés, et ce que vient de dire Natacha Polony sur les entraves à la liberté de conscience, tout ça, c'est la même philosophie traditionnelle de l'extrême droite et du mythe de la pureté. Donc ça n'a pas changé. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a eu une erreur de Gérald Darmanin qui, sur beaucoup de sujets, était dans l'accommodement et donnait à penser que ces sujets-là rentrait dans le champ de la discussion républicaine et qu'il y a eu de surcroît une faute, c'est la phrase que vous avez soulignée, de banalisation. Lorsque on dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, et ben on rentre totalement dans son jeu. Donc ça, c'est sur le fond.
Oui.
Un mot quand même aussi sur la forme et sur ce que disait Natacha. Je ne sais pas, la formule serait un peu hardie, dire, je disais Marine Le Pen, sur le fond, c'est l'extrême droite. Est-ce que sur le fond, c'était sur la forme, est-ce que c'était l'extrême droite? C'est peut-être un peu excessif, mais
le jeu de mots est joli.
Où elle a fait manifestement un effort sur elle-même pour gommer une part de l'agressivité dont elle avait fait montre dans la campagne présidentielle précédente. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'analyser ce qui est sans doute la stratégie politique qui est derrière. En 2012, sa cible, c'était la jonction des populismes, c'était viser le rassemblement des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, de faire la jonction des colères, avec un discours anti-Europe, anti-élite. Et donc, l'agressivité pouvait être cohérente. Ma conviction a toujours été que c'était une impasse, et d'ailleurs ça a été un échec. Là, derrière ce nouveau ton, il y a aussi une nouvelle stratégie électorale, et c'est ça qui pouvait être intéressant dans ce débat, c'est qu'en réalité, il se dispute le même électorat.
Lequel ?
C'est-à-dire l'électorat des Républicains, du parti des Républicains, l'électorat âgé, qui sur lequel il peut y avoir des convergences sur le fond entre Marine Le Pen et eux, mais qui était freiné notamment par le ton de Marine Le Pen. Et donc, de ce point de vue-là, ce débat pouvait être instructif.
Natacha ?
Oui, Gilles a raison de souligner un point. Marine Le Pen a effacé toutes les dimensions, j'allais dire, c'est pour employer un terme que je déteste, disruptives du discours du Rassemblement National qu'elle mettait en avant jusqu'à présent. Après 2017, elle a effacé la question de l'euro et de la sortie de l'Union européenne, parce que visiblement, de toute façon, ce sont des questions qu'elle ne maîtrise pas, et elle l'avait prouvé dans ce fameux débat. Elle a gommé récemment, même si elle y revient, et là-dessus, il y a quelque chose d'extrêmement flou, la question de Schengen, c'est-à-dire qu'elle a fait une sortie il y a 10 jours pour expliquer que le Rassemblement National abandonnait l'idée d'une sortie de Schengen, mais là c'était moins clair dans le débat avec Gérald Darmanin. Mais tout de même, là où Gilles a raison, c'est qu'en fait ce qu'elle efface, c'est cette dimension de jonction des populismes. Mais du coup, la question que l'on se pose, c'est, parce que l'idée c'était de dire ça c'est subversif, ça fait peur à cet électorat conservateur qui vote tant enfin, à la jonction entre la droite et la droite dure, on va dire. Et la question, c'est de savoir ce qu'il lui reste, du coup, pour se différencier. Or, c'est bien le problème, c'est que ce qui lui reste, en fait, elle revient au cœur de ce qu'est le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'on est sur la question identitaire, avec oui. L'idée, et Gilles a eu tout à fait raison de souligner la dimension de pureté dans le discours, c'est-à-dire qu'on est sur un discours qui redevient un discours de défense identitaire et qui n'a plus cette dimension sociale qui avait émergé quand elle s'était distinguée de son père.
Gilles Finkelstein.
Oui, elle revient sur le discours identitaire. Elle refait de la question de l'immigration, de l'identité, la question centrale. C'est ça tout le cœur de sa stratégie, la conviction que si ça c'est le débat central, eh bien les choses vont naturellement venir à elle. Et donc c'est aussi ça qui va être un des enjeux.
Mais comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase « J'aurais pu le signer, ce livre », s'adressant à Gérald Darmanin qui publie un ouvrage sur le séparatisme ?
Je ne sais pas. Écoutez, non, je ne sais pas. Je suis pas dans la tête de Marine Le Pen. Je pense que c'est un exercice, une tentative de séduction de l'électorat des Républicains, de l'électorat âgé, qui sur les questions d'immigration et d'identité n'est parfois pas très éloigné de Marine Le Pen. Est-ce que ça suffit pour gagner une élection présidentielle? Est-ce que ça garantit même une qualification pour le second tour? Rien n'est moins sûr. Et donc là, je pense que les choses sont beaucoup moins jouées que Gérald Darmanin ne voulait le dire. Ce qui me semble certain, c'est qu'avec une telle stratégie, Marine Le Pen ne recueillera jamais les 15 millions de voix qui, depuis 25 ans, sont nécessaires pour gagner une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner, parce que est-ce que, par le jeu de l'abstention, le seuil de la victoire sera abaissé? Ça, nul ne le sait. C'est la campagne et les décisions des électeurs qui le détermineront. Mais elle a eu 10 millions de voix. Je ne vois pas comment elle fait 15 millions de voix.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est un sondage, Gilles et Natacha, sur lequel vous vouliez revenir. Une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès est publiée par Libération jeudi. C'est un sondage sur un sujet qui vous tient à cœur, Natacha, celui des professeurs, des enseignants. Sondage qui montre que 83% des profs disent exercer leur métier avec plaisir, malgré des difficultés pour maintenir la discipline dans les classes, des difficultés également pour tout simplement résister aux burn-out et à l'épuisement. Comment comprendre cette forme de paradoxe, Natacha ?
Ce n'est pas un paradoxe. J'allais dire, heureusement que 83% des professeurs exercent avec plaisir. C'est un métier qu'on ne peut pas exercer si on n'a pas chevillé au corps, ce qu'on appelait autrefois la vocation, même si, soulignons-le, la vocation, ça ne signifie pas qu'il faille se prendre dans la figure et accepter absolument tout. Donc bien sûr, et 87% se sentent en sécurité dans leur établissement, mais on espère bien. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve quand même que les autres, ceux qui ne sont sont pas là-dedans, c'est-à-dire 13% qui ne se sentent pas en sécurité, pardon, mais moi je trouve ça beaucoup.
Oui.
Et je trouve que 45% qui ont été visés par des insultes, 28% par des menaces contre eux ou contre leurs biens, c'est énorme. Or, il y a des années qu'il y a un débat sur la question de la sécurité dans les établissements scolaires, et où on nous explique que tout ça est uniquement de l'ordre du ressenti, que aucun chiffre ne montre des problèmes. Or, il me semble que ce que montre ce sondage, et c'est d'ailleurs dit par Yannis Schroeder, qui fait partie des gens qui ont travaillé sur ce sondage à la Fondation Jean Jaurès, c'est le fait que ça montre aussi une forme d'acceptation de la part de certains professeurs, c'est-à-dire qu'à force de vivre des insultes, des menaces, eh bien ils ont intégré cela, et ça ne les empêche pas heureusement d'être heureux et d'aimer leur métier, mais nous, en tant que citoyens, nous devons nous poser la question de savoir si nous acceptons que des professeurs aient finalement intégré les insultes, les menaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans l'interprétation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été frappée dans l'article que Libération a consacré à ce sondage, de voir un commentaire justement sur Yannis Schroeder, donc professeur qui est toujours professeur en Seine-Saint-Denis, qui a été un des auteurs des Territoires perdus de la République. Et Libération écrit: un livre qui avait suscité beaucoup de débats à sa sortie en 2002, dépeignant des établissements où régnerait antisémitisme et racisme. Et dans cette phrase, il y a tout ce qui, justement, fragilise certains professeurs et rend les choses extrêmement difficiles. Parce qu'il y a, en fait, l'idée que tout cela était monté en épingle. 2002, ce livre décrivait une réalité et décrivait des élèves de collège, une génération, qui est celle de Mohamed Merah, des frères Kouachi. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que il n'y a que, j'allais dire, que un certain nombre de professeurs qui sont frappés par des insultes ou par des menaces, que ça n'est pas grave.
Ouais.
Et je pense que l'idée de réduire cela à une petite minorité, c'est oublier que nous devons tous collectivement nous intéresser à ce qui se passe dans les établissements scolaires.
Gilles Finkelstein, avant le débat.
Oui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et à raison, de la situation de la jeunesse. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'école. C'était intéressant de s'intéresser aux enseignants, et c'était l'objet de cette enquête. De manière vraiment trop schématique, parce que le temps nous presse, si j'essaye de résumer. Moi, j'ai été surpris, agréablement surpris, par ce chiffre de 83% des enseignants qui disent exercer leur métier avec plaisir, parce que par rapport à cette idée de la crise des vocations, de la difficulté du métier, malgré tout, c'est quelque chose de positif. C'est en gros le chiffre moyen des Français qui exercent leur profession avec plaisir. De la même manière, j'ai trouvé plutôt positif le fait qu'il n'y ait malgré tout, 20% d'entre eux qui disent avoir des problèmes de discipline dans leur classe, même s'il y a des disparités, et dire qu'il y avait du respect. Donc ça, je trouve que c'est positif. En revanche, il y a deux signaux d'alerte. Le premier, il est sur notre société elle-même, le fait que plus de la moitié d'entre eux disent que leur enseignement a été contesté à un moment ou à un autre dans toutes les disciplines pour des questions d'ordre religieux, et que le tiers d'entre eux dit qu'ils ont été menacés à un moment ou à un autre physiquement ou moralement. Ça, c'est un signal d'alerte. Et le dernier, et je termine par là, c'est un signal d'alerte sur les enseignants eux-mêmes, parce que en dépit de ça, il y a un chiffre qui est extrêmement alarmant. 46% d'entre eux, c'est plus que la moyenne des Français, ont eu à un moment ou à un autre, ont été en situation de burn-out. Et donc, on voit malgré tout toute la difficulté, y compris par rapport à ces nouveaux standards qu'évoquait Yannis Schroeder.
France Inter, bientôt midi et demi, à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Françoise Vergès.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Le débat du samedi, justement, la République face au défi du décolonialisme. Dans le débat public, être décolonial est une infamie, écrivait notre invité. Décolonialisme, comprenez ce mouvement de pensée qui veut combattre ce qui reste de l'idéologie des pratiques coloniales dans notre société, parfois même de manière structurelle. Notre invité aujourd'hui est féministe décoloniale. Cela fait des années maintenant qu'elle cherche à dénoncer la convergence des différentes formes de domination, le sexisme, l'islamisme, le racisme, le capitalisme. Elle a partagé les combats du MLF. Elle a pu récemment faire tribune commune avec les indigènes de la République. Elle va nous dire pourquoi ce féminisme décolonial doit être défendu. Bonjour Françoise Vergès.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous travaillez sur des questions de fond qui divisent profondément dans l'espace public. Certains y voient même, en tout cas dans l'idée du décolonialisme que vous allez définir dans un instant, certains y voient même une menace pour ce qui peut faire commun, ce qui peut nous unir dans notre société. Vous avez publié Le ventre des femmes, qui vient d'être réédité chez Albin Michel. Une théorie féministe de la violence, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions La Fabrique. Petit travail de définition et j'ai hâte de vous entendre échanger avec Natacha et Gilles. Quand on dit féministe décoloniale, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il faudrait déjà peut-être revenir justement sur décolonial, qui est ancré dans la pensée d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon déjà, qui se poursuit ensuite en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une racine, enfin une tradition ancrée dans la critique du colonialisme français. Je rappelle que quand Aimé Césaire dit dans Discours sur le colonialisme, l'Europe est indéfendable, qui parle de l'effet retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des lois raciales là-bas qui ne reviennent pas s'insinuer dans les mentalités, dans les structures, ce que Frantz Fanon aussi dit, ce que des jeunes Guadeloupéens. Donc la question c'est que, par exemple, si on prend ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, c'est de dire de 1848 et 1946, ne mettent pas fin à une structure coloniale de pouvoir et de domination.
Malgré l'inscription de ces territoires dans la République.
Voilà, que l'abolition n'a pas rempli sa promesse. Donc à partir de là, on regarde ce qui se passe dans ces territoires et aussi dans ce qui se passe en France, et on voit. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, c'est un féminisme qui s'ancre dans des luttes très concrètes, de regarder par exemple les femmes grévistes de l'Ibis Batignolles, que disent-elles ? Elle parle de travail sous-qualifié, sous-payé, de harcèlement sexuel, de harcèlement racial, de toutes les critiques de toutes ces jeunes femmes sur les féminicides, le viol, l'inceste. Vraiment toute une chose qui s'attaque à des dominations patriarcales, mais qui sont pas sans rapport avec d'autres formes de domination.
Et donc, ces femmes, il faut les définir comme racisées, ce que vous faites.
Oui, racisées, puisque bon, c'est la vieille école pour ne pas parler de race, de ces processus qui rendent des personnes, qui les rendent vulnérables et à des stigmatisations et donc à ensuite des discriminations très concrètes. Ce n'est pas simplement de l'ordre du discours.
Beaucoup de questions à vous poser et c'est vrai que c'est des sujets qui traversent notre société. Gilles Finkelstein puis Natacha Polony. Gilles.
Oui, bonjour. Je voudrais peut-être commencer justement sur ces questions du colonialisme par revenir sur un sujet qui a nourri l'actualité ces dernières semaines qui est sur ce qui a été un des moments fondateurs et un des moments les plus lourds et dont les traces sont les plus fortes, qui est la guerre d'Algérie et le rapport que Benjamin Stora a rendu le 20 janvier dernier au président de la République. Ce rapport, si j'essaie d'en résumer ce que j'ai compris de son esprit, visait à dire que, pour l'essentiel, les mots ont été prononcés par les présidents de la République, de Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, qu'il ne fallait pas viser une histoire commune, le récit d'une histoire commune, mais qu'au moins il fallait essayer de faire la paix des mémoires et qu'il y avait un certain nombre de gestes concrets qui pouvaient être faits de part et d'autre. Est-ce que quand vous regardez ces propositions, par exemple restituer à l'Algérie l'épée de l'émir Abdelkader, la panthéonisation de Gisèle Halimi, le travail sur les archives, le travail sur les disparus d'Oran, est-ce que vous vous dites ce sont des pas qui sont utiles pour arriver à cette pacification, à cette paix des mémoires, ou est-ce que vous dites ça ne sert à rien, c'est trop peu, ou c'est pas ça l'objectif qu'il faut poursuivre ?
Je pense que c'est une question franco-française, cette histoire. Je veux dire que le rapport Stora s'adresse à la France, à la question française, ne s'adresse pas aux Algériens. Les Algériens, ils font ce qu'ils ont à faire, et le peuple algérien a tout à fait montré à travers le Irak qu'il n'était pas dupe du discours officiel qui se faisait sur la guerre.
sur les questions en France, moi je trouve ça c'est bizarre, cette histoire de pacification des mémoires. Déjà le terme pacification est quand même un peu problématique. Qu'il y ait des mémoires qui soient en conflit, c'est quand même assez, c'est assez banal. Je veux dire que ça fait partie de la manière dont des personnes abordent leur histoire familiale d'abord. Et ensuite, je pense que ce serait plutôt qu'une pacification, ce serait de mettre vraiment, d'expliquer en quoi, comment, pourquoi en France il y a eu un accord, un consentement à la question coloniale, un accord, un consentement à une guerre contre un peuple qui ne voulait que son indépendance.
Beaucoup s'y opposaient.
Il y en a qui s'y opposaient.
Mais justement, anti-coloniaux.
On parle de ça. Je veux dire, c'est la question de la société française. Pour moi, c'est, je veux dire, que la société française, elle se pose ces questions sur son adhésion et sur son refus. Qui a refusé, pourquoi, et qui a consenti et pourquoi?
Mais aujourd'hui, les nouvelles générations, est-ce qu'elles devraient se sentir coupable, redevable?
Mais rien, la culpabilité ne sert à rien en histoire. C'est pas une question de culpabilité. Je veux dire, ça ne sert strictement à rien. Je vois pas. C'est pas du tout ça. C'est la question de voir comment se constituent justement des consentements et des dissidences à quelque chose à un moment donné. Comment ça peut durer si longtemps? Moi, qui me suis intéressée à l'esclavage, ce qui m'intéresse, c'est alors que c'est condamné assez rapidement en Europe, ça se poursuit pendant des siècles. Donc, qu'est-ce qui se fabrique là comme consentement? Et pourquoi c'est si long et si difficile d'arriver à quelque chose qui sera un anti-esclavagisme européen, mais surtout les luttes des esclaves qui ne s'arrêtent pas pendant des siècles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et c'est pas la pacification.
Mais vous avez parlé même de révisionnisme concernant le travail de Benjamin Stora? Iriez jusque-là?
Révisionnisme, il révise quoi? Non, moi je trouve que si vous voulez, il y a une question de mettre toutes les histoires plutôt que mémoire, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le temps on parle de mémoire quand il s'agit de groupe, et l'histoire ce serait, je sais pas, quand il met ça au même plan, je trouve ça quand même problématique, oui. Je trouve ça problématique.
Et vous trouvez que c'est une question qui ne concerne que la France? Ça ne concerne pas aussi l'Algérie? Et ce n'est pas un élément des relations entre la France et l'Algérie?
Dans le rapport Stora, moi, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'à la fin, justement, là, il parle de qu'il faut résoudre ces problèmes parce que l'Algérie joue un rôle envers la migration, les migrations qui passent par le Sahara, et puis il y a la question du pétrole et du terrorisme. Est-ce que ce sont ces intérêts économiques qui rendent cela nécessaire, déjà? Mais je ne dis pas que ça ne concerne pas les Algériens. Je dis que les Algériens l'ont pris en compte et le fait. Et je rappelle que pour moi, le mouvement Irak est un mouvement, justement, de se réapproprier une histoire qui leur a été volée par des gouvernements successifs.
Qui était le mouvement de la jeunesse algérienne et qui réclamait le départ, notamment, d'Abdelaziz Bouteflika. Natacha Polony.
Oui, on va pas faire toute l'émission sur l'Algérie, mais quand Benjamin Stora, tente de par ce rapport de pacifier, c'est aussi parce que la question c'est celle du dialogue entre les deux peuples et le fait que les autorités algériennes, le gouvernement algérien est aussi instrumentalisé cette histoire, joue un rôle. C'est-à-dire que les deux pays doivent regarder les exactions qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu des deux côtés, même si le fondement, nous en sommes d'accord, c'est que la colonisation comme projet n'était pas acceptable et la négation absolue, notamment de ce que prétend être la France. Mais je pense que le regard, il doit être quand même critique des deux côtés. Je voulais, moi, vous poser une question sur, justement, ce qu'implique la pensée qu'on appelle aujourd'hui décoloniale, c'est-à-dire dans sa façon d'appréhender les rapports et de les mettre sur un plan racial. Je vois surgir des concepts comme racisme inconscient, racisme par omission, qui laissent entendre que, en fait, quels que soient les actes des individus, quels que soient les faits, le racisme est en eux, même quand ils le combattent, même quand ils ne s'en rendent pas coupables, il serait présent dans ce qu'ils ne font pas ou dans leur inconscient. Est-ce qu'il n'y a pas là une façon de prendre les choses qui rend impossible le règlement de cette question-là et les avancées, puisque de toute façon certains sont coupables, j'allais dire exactement comme on pouvait considérer, comme l'Inquisition pouvait considérer que des gens étaient coupables et que, quel que soit ce qu'ils disaient, il fallait extirper d'eux le mal.
Françoise Vergès.
Je pense que la question que je pose ou que d'autres posent, c'est la question de ce qu'on appelle le racisme structurel. Moi, ça ne m'intéresse pas les individus. Là, pour moi, ce n'est pas une opinion personnelle. C'est comment ça transparaît, c'est comment ça continue. On n'a qu'à regarder ce que dit même le défenseur des droits ou les statistiques. Il y a des discriminations raciales en France. Dans l'accès à la santé, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'éducation. Donc la question, c'est cela. Pour moi, je veux parler de ça.
Bien sûr.
Le reste, ces questions-là, je trouve que c'est des détournements de ce qui est vraiment au cœur de la question que nous posons. Et qui est absolument, oui, nous sommes quand même nombreuses depuis très longtemps à dire que c'est absolument en intersection, si on veut utiliser ce terme, mais moi je ne suis pas fétichiste, avec les questions de genre, de sexualité et de classe.
Natacha.
Mais vous ne répondez pas à ma question.
Mais non, c'est-à-dire
parce que votre concept de racisme par omission, que révèle-t-il de la conception qu'on peut avoir, par exemple, dans les arts? Je pense à ce rapport qui a été rendu récemment sur l'Opéra de Paris. Je pense à tout ce qui se passe dans le monde culturel aujourd'hui et où on voit finalement une forme de tentative de moralisation de l'art qui ne tient plus compte, d'ailleurs vous disiez les individus ne m'intéressent pas, donc qui ne tient plus compte de la démarche artistique, qui ne tient plus compte même de l'histoire. C'est frappant quand on aborde la question de l'opéra sans comprendre que ce qu'on appelle ballet blanc par exemple n'est pas un concept raciste mais un concept qui relève de la blancheur des tutus qui évoque les spectres. Et tout cela aboutit à une façon de prendre le problème qui me semble qui le rendre impossible justement l'apaisement et la fin de ces discriminations autrement que par la mise en accusation des individus.
Je disais que ce quand on parle de racisme et qu'on parle d'une opinion personnelle, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que les individus ne m'intéressaient pas, c'est cette manière, c'était je répondais à votre question. D'autre part, sur la question de l'opéra, c'est un processus beaucoup plus long qui ne concerne pas simplement la question du ballet blanc, qui concernait effectivement des danseurs et des danseuses qui ont fait un texte à ce propos et qui disaient que finalement, par exemple, il n'y a même pas, quand elles vont se faire coiffer, les coiffeuses ne savent pas comment traiter les cheveux des femmes noires, ou là, je veux dire, on est dans des questions très concrètes. La question d'appeler des ballets, d'affaires du blackface.
Donc c'est un problème, mais. Pardon, mais cette question, par exemple, de la coiffure, ça va se régler petit à petit, puisque c'est une question de fait majoritaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça n'était pas un besoin. Ça l'est désormais, et c'est bien que ce soit pris en compte.
Mais
peut-on reprocher aux gens le fait que jusqu'à présent, on n'avait pas perçu que c'était un besoin?
Peut-on reprocher aux gens? Je n'arrive même, excusez-moi, mais je ne comprends même pas cette phrase. C'est pas peut-on reprocher aux gens. C'est qu'il y a des personnes aujourd'hui, des danseuses et des danseurs. Il y a eu déjà Benjamin Millepied qui avait essayé de faire quelque chose et qui a démissionné devant l'impossibilité de le transformer. Ensuite, il y a des personnes. Il y a aussi à l'opéra, relisons le texte, disait pourquoi les vigiles, les femmes de ménage, les personnes à la cantine, ce ne sont que des personnes racisées. Je veux dire, c'est-à-dire de prendre la question de l'opéra comme un ensemble et pas simplement ce qui se passe sur la scène. C'est ça la question que posent ces jeunes artistes aujourd'hui, c'est évidemment qu'elles prennent des choses dans leur ensemble. Donc l'opéra de Paris, c'est très bien et les choses vont se poursuivre.
Je signale d'ailleurs que Pape Ndiaye, qui a été nommé à la tête du musée de l'immigration, avait entamé un travail justement pour montrer les difficultés pour les enfants issus de la diversité, comme on dit, d'intégrer l'opéra.
C'est justement là-dessus que je voudrais vous interroger.
Gilles Finkelstein, mais laissez Françoise Vergès vous répondre malgré tout.
Oui, oui.
Allez-y, je veux bien Gilles. Pour qu'elle me réponde, il faut que je lui pose ma question. Je vais prolonger cette question sur l'Opéra de Paris. Vous avez fait part de ce qui était à l'origine du rapport qui a été commandé par le directeur de l'Opéra de Paris, justement à Pape Ndiaye et à Constance Rivière. Ils ont fait, il y a quelques jours à peine, un certain nombre de propositions pour élargir le recrutement, pour travailler sur le répertoire, pour interdire ce que l'on appelle le blackface, sans toucher au répertoire. Est-ce que vous considérez que le fait que l'opéra lui-même se pose ces questions-là et que ces propositions soient mises en œuvre, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction ou est-ce que encore une fois il faut prendre les choses autrement?
Mais ces questions, ces questions, par exemple, je suis dans une association qui s'appelle Décoloniser les Arts et dès 2015 on posait la question qu'est-ce qui se passe dans les structures, dans les institutions culturelles, par qui sont-elles dirigées?
qui est là, qui est sur la scène, qui est dans la loge, qui est en train de faire le ménage. Donc ça évolue, qu'il y a des artistes, et on sait que dans le monde artistique et culturel, il y a de plus en plus de jeunes qui posent des questions. Donc ça va, oui, ces premières mesures vont dans le sens de ce qui est demandé depuis des années. Depuis et puis d'autres années. Choses, d'autres problèmes se poseront demain. C'est-à-dire des jeunes qui vont arriver vont dire, ben nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est un peu comme ça que se pose, je veux dire, que les choses avancent. Heureusement, donc il y a des gens qui poussent, qui ouvrent la porte, et puis du coup il y a un rapport qui se fait, mais c'est les personnes qui ont lutté depuis des années qui ont permis que cette porte s'ouvre.
Mais voilà. Juste d'un mot pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, vous avez signé, vous êtes l'une des co-signataires d'un manifeste des 343 qui avait été publié par Mediapart à l'époque, et vous interrogez justement la possibilité, enfin vous réclamiez même qu'on ne représente pas une pièce d'Eschyle avec des acteurs grimés au nom du blackface. On vous reproche donc de céder à la cancel culture, c'est ce concept qui vient des États-Unis, ou en tout cas de tout voir en termes de race, et du coup de pratiquer une forme de censure, Françoise Vergès.
Oui, enfin la censure, on sait bien quand même de quel côté on est, mais je veux dire, on est coincé dans des conversations face à des questions qui ne sont pas productives. Je suis désolée. Je veux dire, je pourrais parler de la cancel culture et dire que ça n'existe pas. Ça ne convaincra pas les personnes qui disent qu'il y a une cancel culture et qu'il y a une censure. Je voudrais plutôt parler de ce qui peut se passer aujourd'hui, de ce qui se passe, de tous ces groupes, par exemple, de ce collectif qui s'appelle Art en Grève, qui se pose la question de comment les choses vont reprendre, quand les salles vont réouvrir, qui se pose que quand on te voit, les jeunes chorégraphes, les jeunes danseurs, c'est ces questions qui m'intéressent. C'est comment les choses, dans l'enseignement, dans les écoles d'art, on voit par exemple ces jeunes étudiants à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux qui ont protesté, qui ont demandé à ce qu'il y ait quelque chose dans l'enseignement qui change, ou dans les Beaux-Arts de Strasbourg. Donc c'est ces mouvements-là qui m'intéressent. C'est ce qui se passe, c'est ce que ce jeune demande.
Natacha Polony.
Malgré tout, la question de la façon dont on combat les discriminations se pose, et en l'occurrence l'exemple de la pièce d'Eschyle et d'Anaïde me semble assez intéressant, d'abord parce que il y a en effet une volonté d'interdire cette pièce. L'emploi même du terme blackface pour désigner ce qui n'est absolument pas un blackface, mais qui est le fait pour des acteurs de représenter ces femmes qui sont des femmes égyptiennes dans la pièce. On rappelle que Eschyle est un auteur du début du 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et que la question raciale n'est absolument pas celle qui se pose dans la pièce, et il n'y a absolument pas de volonté de moquerie ou d'infériorisation par la représentation de ces femmes égyptiennes. Donc ça pose une question qui est beaucoup plus large, qui est la question de la perception des œuvres d'art et de la façon dont on peut comprendre une œuvre d'art qui ne relève pas d'un contexte qui est le nôtre actuellement. En l'occurrence, Eschyle peut difficilement être tiré vers une réflexion qui soit une réflexion sur le racisme, et dans la mesure où ce n'est absolument pas la problématique qui est portée par cette pièce. Est-ce que ça ne pose pas un problème de systématiquement imposer des critères en art qui sont des critères qui empêchent la mise à distance nécessaire, puisque la démarche de celui qui regarde une œuvre d'art, c'est aussi de comprendre qu'elle lui parle d'un contexte qui est autre, d'une culture qui est parfois autre, et que c'est ça qui fait la richesse de l'art.
Françoise Vergès.
Écoutez, cette caricature des positions des personnes, c'est-à-dire d'un côté les personnes qui savent qui est Eschyle et ce qu'Eschyle a voulu faire, et d'autres personnes qui seraient totalement ignorantes et qui ne comprendraient rien.
Est-ce que j'ai dit ça?
Mais vous avez fait une très longue leçon sur qui était Eschyle. Je crois que beaucoup d'entre nous savent qui est Eschyle et savent ce qu'était cette pièce.
Question. J'ai fait une leçon, j'ai essayé d'expliquer pour les auditeurs.
Françoise Vergès. Vous avez la parole.
Bon, alors, que la question du blackface se pose, c'est-à-dire que les choses changent et qu'on n'en soit pas, je veux dire, je trouve que la question des artistes et de l'art ne doit pas se poser comme ça, de cette manière. On peut quand même que des jeunes disent « je ne veux pas de blackface » et quel que soit, parce que ça veut dire quand même un grimage qui aujourd'hui renvoie à autre chose que ce que les Grecs au 5e siècle voyaient. Et que si on n'est pas capable de comprendre ça, eh bien évidemment, on ne peut pas le voir. Ensuite, je voudrais savoir pourquoi on insiste tant sur cette question, alors que je parle des mouvements dans les écoles d'art aujourd'hui, de tout ce qu'on voit sur Instagram, de ces jeunes qui veulent comprendre autrement, qui posent la question de l'espace public dans lequel ils sont, de l'enseignement qu'on leur donne. Du fait qu'on ne continue, ils ne connaissent rien des artistes africains, des artistes asiatiques, des artistes des Caraïbes, des artistes d'Amérique, c'est quand même aussi une profonde question. Et là, on pourrait parler de cancel culture aussi. Mais c'est une notion que je me refuse à utiliser, même dans cette situation.
Gilles Finkelstein. Oui.
Je vais peut-être revenir sur votre dernier livre, Une théorie féministe de la violence, qui est un peu dans le prolongement du féminisme décolonial que vous aviez publié précédemment. C'est un livre dans lequel vous dénoncez ou vous critiquez en tout cas ce qu'a été pour partie le féminisme, ce qu'on appelle le féminisme universel. Pour ceux d'ailleurs qui veulent avoir l'autre point de vue, je renvoie au livre de Martine Storti pour un féminisme universel qui est sorti à la République des idées il y a quelque temps et qui...
Et avec qui vous avez dialogué récemment.
Voilà, et pour lequel vous avez dialogué. Donc, vous dénoncez ce féminisme d'État et en l'occurrence, ce que vous appelez le féminisme carcéral, si vous pouvez expliquer à la fois l'objet de cette dénonciation et qu'est-ce que vous, en réalité, vous proposez. Parce que je vois dans les propositions, il y a... un élément qui est intéressant, qui s'appelle ce que vous appelez la justice restaurative, c'est-à-dire le fait de confronter les victimes et ceux qui ont commis des actes. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce que demandent aujourd'hui les femmes qui ont été victimes de violences ?
Françoise Vergès.
Certaines le demandent. Hein. D'après les études, on voit que ce qui est très important, c'est la reconnaissance du crime plutôt que la sévérité de la punition. Dans les études qui sont faites auprès des femmes victimes de violences. Ça, c'est une chose. C'est qu'en fait, il n'y a pas une réelle satisfaction dans le fait que le bonhomme est envoyé 20 ans en prison. La question qui est posée aussi par ces femmes, c'est la question de comment vont-elles poursuivre leur vie, vont-elles pouvoir retrouver, c'est toutes les questions très souvent sociales, économiques, hein, de se retrouver, celles qui sont battues et qui sont obligées de quitter la maison, de se retrouver sans revenu. Donc on a des questions au-delà simplement du moment du crime, on a des questions sociales et culturelles que ces femmes posent à toute la société. Il n'y a pas assez de reprendre une vie. Et la question du patriarcat et de la violence du patriarcat. Donc au-delà, le féminisme carcéral, ces femmes qui pensent que plus de punitions, plus de répression vont résoudre la question des violences des femmes. Or, les études montrent aussi que d'envoyer des masses d'hommes en prison ne mettent pas fin ni au viol ni à toutes les autres formes de violence. Bon, c'est une chose. D'autre part, la question pour moi, c'est pourquoi cette violence ? Elle est aussi légitimée. Elle est aussi massive.
Elle n'est pas légitimée.
Elle est légitimée en ce sens que, si vous voulez, ça quand même, ça se poursuit. On le voit aujourd'hui. Les appels au meurtre des femmes dans certains pays, mais carrément, publiquement, par des dirigeants. Le meurtre de femmes militantes autochtones, le meurtre de Marielle Franco. Les appels ici, en France, les menaces de mort contre Rokhaya Diallo. Il y a quand même, effectivement, une violence. On le voit ou dans les lois qui sont prises en Pologne aujourd'hui, en Inde.
Mais restons en France. Menaces de mort contre Rokhaya Diallo, contre Mila, contre... Oui, voilà, il y a des menaces de mort. Et pour vous, les mots harcèlement, viol, maltraitance, féminicide, ne disent pas suffisamment ce qu'est
si,
la
ils
réalité.
Disent, ils le disent. Non, c'est la question qui m'était posée, c'était la question du féminisme carcéral et de la justice restaurative. Et c'est la question de la justice. Pour moi, effectivement, je suis dans cette interrogation et je suis très intéressée par les questions que posent des féministes dans les Amériques, pas seulement l'Amérique du Nord, hein, restons calmes, c'est dans toutes les Amériques, sur cette question de dépasser cette demande de plus de punitions, plus de lois répressives, et de passer à une justice rétroactive tout en combattant fermement ces crimes. On le voit au Mexique, vous allez me dire c'est au Mexique, mais ici par exemple les collages de jeunes féministes partout, c'est très fort, ça a complètement transformé la manière de voir, elles ont occupé l'espace public pour montrer que l'espace public était justement interdit, était ségrégué, que les femmes ne circulent pas librement dans cet espace public.
Natacha Polony et puis Gilles Finkelstein, l'heure tourne. les amis.
Oui, le retourne. Alors, rapidement, la mixité dans l'espace public me semble en effet un élément essentiel à maintenir et à développer. Et je pense que c'est un combat qui doit être mis en avant. Mais je veux vous faire part d'un étonnement. Vous évoquiez les menaces de mort contre Rokhaya Diallo, qui sont en effet insupportables. Et Ali vous répondait par les menaces de mort aussi contre une jeune fille comme Mila, menace de mort. Et les menaces sexistes et homophobes. Et comment expliquez-vous la gêne de nombreux mouvements féministes face à ces menaces qu'a reçues cette jeune fille, le silence des militants, de beaucoup de militantes féministes, parce que quoi qu'on pense de ce qu'elle a pu dire de l'islam, cette jeune femme a été menacée, agressée, elle ne peut pas vivre une vie normale.
Alors laissez Françoise Vergès vous répondre, Natacha.
En raison de son orientation sexuelle et du fait qu'elle était une femme.
Mais nous sommes plusieurs à être absolument contre toutes les formes de menaces de mort et toutes les formes de violence qui ont lieu contre les femmes. Il y a quand même quelque chose de frappant, justement, c'est que beaucoup de fois, ce sont des femmes qui sont visées partout aujourd'hui. Les femmes sont visées parce qu'elles parlent.
Je parle du silence des féministes.
Mais je ne connais pas ces féministes. Moi, féministe, je ne suis pas pour. Donc je demandais aux féministes qui ne sont pas pour. Je ne peux pas répondre pour elles. Je dis, je le redis, que nous sommes beaucoup d'entre nous à être absolument contre toute menace contre des femmes, même celles avec qui nous ne sommes pas d'accord. La question de ces violences sexistes, de ces menaces qui visent des femmes, non, on combat les idées, pied à pied s'il le faut, on a des arguments, mais on ne menace pas. Donc moi je suis absolument contre toutes ces campagnes qui se passent, et qui d'ailleurs, dont je suis très souvent l'objet, sur les réseaux sociaux, et qui visent la personne et non pas ses idées. Donc là, c'est clair.
D'un mot, Françoise Vergès, qu'est-ce que vous pensez de l'idéal universel, de l'idéal républicain? Est-ce que c'est une promesse vide ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel il faudrait malgré tout tendre? Quand on parle des différentes formes de féminisme, toutes ont en commun la volonté d'aboutir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les moyens d'y parvenir sont extrêmement différents, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de divisions, de clivages, d'anathèmes, alors même qu'on pourrait se retrouver sur au moins des combats communs?
Ben, c'est pas étonnant que dans un mouvement, je veux dire, puisque les femmes ne sont pas toutes, s'il n'y a pas un tout homogène, qu'il y ait justement des conflits et des discussions très âpres et très vives autour de ce que ça signifie la libération des femmes. Je trouve ça très, en fait, plutôt encourageant, si c'était la même chose depuis toujours.
Encourageant.
Mais qu'il y ait des frictions, bien sûr qu'il y ait des débats, mais la question c'est plutôt, moi je suis du côté des féministes qui parlent d'international, c'est-à-dire de comment les luttes là-bas, qui vont peut-être plutôt sur la question, je sais pas, du droit à la terre, les luttes là-bas qui vont être sur la question des salaires, les luttes ici qui vont être, elles sont effectivement en lien, mais elles ne sont pas les mêmes, elles sont quand même en rapport. Les femmes en Pologne aujourd'hui, elles luttent contre quelque chose, je suis avec elles.
Gilles Finkelstein.
Ouais, une dernière question puisque le temps passe. Dans l'analyse que vous faites des sources de la violence et de la violence du patriarcat, vous centrez presque exclusivement votre réflexion autour du colonialisme et du capitalisme. Ma question est simple. Yvon Jablanka, dans Des hommes justes, dit « Les religions ont un problème avec les femmes. Toute religion devrait questionner le masculin, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, l'orthodoxie, la famille. » Est-ce que c'est pas un angle mort de votre réflexion?
Non, c'est pas... Oui, bien sûr, on pourrait dire. Mais si vous voulez, la question des religions, pour moi, se lie vraiment à la question des structures de pouvoir. Et je pense que, évidemment les religions, mais je pense que la question des masculinités hors des religions est à poser. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir un homme aujourd'hui? Quand les images qui sont proposées, c'est celui qui a une Rolex à 50 ans. Il y a quelque chose vraiment de profond et il y a aujourd'hui, on le sait, dans les communautés dites racisées, beaucoup de jeunes hommes ou qui s'identifient que d'hommes non-binaires ou queer qui se posent la question de ces masculinités qui ont été colonisées. N'oublions pas, juste quand même pour dire, il y a eu toute une des études qui sont faites sur ce qu'on appelle la colonialité du genre, c'est-à-dire dans des sociétés où s'impose un binarisme rigide entre hommes et femmes, alors que c'était des sociétés qui admettaient qu'il y ait d'autres sexualités et d'autres genres. Donc, la libération de ce binarisme homme-femme, de cette rigidité qui opprime les femmes et qui opprime aussi les hommes et les garçons, c'est pour nous, effectivement, enfin pour moi, une lutte absolument justifiée et importante à mener.
D'un mot, Est-ce que vous diriez que la lutte des races a remplacé la lutte des classes ?
Pas du tout. Je pense que les luttes sont des luttes de race, de classe et de genre et de sexualité. Je pense que les luttes sont des luttes pour les libérations, la libération totale de la société.
Merci Françoise Vergès d'avoir accepté d'être notre invitée, de débattre avec Gilles et Natacha. Je rappelle Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, qui vient d'être réédité par Albin Michel. Un féminisme décolonial et une théorie féministe de la violence dont parlait Gilles Finkelstein tout à l'heure sont aux éditions La Fabrique. Merci Gilles et Natacha, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Marie Merrier, à la technique Clément Berman. À suivre sur Inter, le journal.